logiciel libre et tutti quanti.
Et c'est parti.
C'est parti.
Esprit d'entreprise. Esprit d'entreprise, Vincent Némon.
Bonjour à tous. Une vingtaine d'années, une courte génération pour une révolution, c'est celle que nous venons de vivre avec l'irruption massive de l'informatique dans nos vies et la propagation d'Internet. Aujourd'hui, même si la fracture Internet existe encore, elle tend à se réduire considérablement et les exclus numériques sont de moins en moins nombreux. Vous comprenez, auditeurs, l'entreprise a été le berceau de cette révolution, proposant de nouvelles techniques, mais aussi insufflant de nouvelles méthodes, un nouvel esprit, une nouvelle philosophie du business. Emblème de cette révolution, l'open source et le logiciel libre, bien plus qu'une technique de développement, l'open source et le logiciel libre sont une véritable nouvelle posture, une proposition, un mode relationnel différent, c'est bien sûr avec notre partenaire IT Angels, réseau de Business Angels dédié aux nouvelles technologies que nous avons préparé cette émission, et plus particulièrement avec son fondateur et président. Bonjour Didier Tranchier.
Bonjour Vincent.
Et pour aborder cette question du logiciel libre et de l'open source, deux invités spécialistes, Jean-Noël de Galazin, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes un entrepreneute, on va expliquer ce que ça
un
veut dire.
Un entrepreneur, oui.
Voilà, dans le domaine de l'Internet, oui. Plus particulièrement, en tout cas du numérique. Et plus lisiblement, vous êtes donc un chef d'entreprise devenu une référence, c'est pour ça que vous êtes là, dans ce monde de l'open source et du logiciel libre. Vous êtes président directeur général de Walix. Société française, leader des solutions logicielles de sécurité informatique et aussi vice-président de PME du pôle systématique Paris Région. Alors, on va revenir sur tout ça dans quelques instants. Et puis, Jean-Pierre Archambault, bonjour.
Bonjour.
Alors, rapprochez-vous un tout petit peu du micro. Voilà, ça
bonjour.
Sera bien. Vous êtes professeur agrégé de mathématiques. Aspect. Vous êtes chargé de mission auprès du Centre national de documentation pédagogique qui, sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, propose entre autres choses, un site de ressources pédagogiques et documentaires à destination de la communauté éducative, bien sûr en faveur de la réussite des élèves. Vous aurez l'occasion de nous expliquer ça. Vous êtes un spécialiste en tout cas de cette question du logiciel libre et de l'open source que vous associez bien sûr à la place de l'informatique dans l'éducation. Alors on va vous poser la première question à vous, Jean-Pierre Archambault, notre professeur de ce soir. Donnez-nous une définition du logiciel libre.
Alors, une façon de définir les logiciels libres est de donner leur différence avec les logiciels propriétaires. Quand vous achetez un logiciel propriétaire, une suite bureautique par exemple, en fait, vous achetez un droit d'utilisation avec des conditions en général assez restrictives. Pour cela, on vous fournit le code objet du logiciel, c'est-à-dire, pour faire simple, une suite de 0 et de 1 qui vous permet d'exécuter le programme sur votre ordinateur.
Non, de déverrouiller le CD en fait qu'on a mis dans l'ordinateur et puis ou alors de le programme
de l'utiliser.
Voilà,
non,
c'est ça.
C'est une banalité, faut que ça.
Et souvent
ça...
une seule fois d'ailleurs.
Oui.
Pas toujours.
Alors, en revanche, quand vous procurez un logiciel libre, alors gratuitement ou pas, quand c'est pas gratuit en général c'est moins cher, vous avez quatre libertés. La première, c'est bien entendu la liberté d'utiliser le logiciel que vous êtes procuré. Mais deuxièmement, en plus, on vous fournit le code source du logiciel. Alors, le code source du logiciel, c'est le programme écrit dans un langage évolué, compréhensible par un humain, avec des instructions du genre, si la variable X comporte le verbe manger, alors affiché à l'écran, je mange, tu manges. Alors, conséquence de cette mise à disposition du code source, vous pouvez comprendre comment le logiciel fonctionne, ce qui n'est pas négligeable dans un contexte éducatif. Vous pouvez le modifier, vous pouvez le corriger, vous pouvez l'adapter à vos besoins.
Oui.
L'améliorer, hein, et bien sûr, hein, vaut mieux l'améliorer. Alors, vous allez dire, tout le monde ne le fait pas. C'est vrai. Mais c'est un peu comme la comptabilité nationale. Elle est publique. Ça ne veut pas dire que tout le monde va fouiller dans la comptabilité nationale. Mais le fait qu'on puisse aller regarder, que certains le font, ça change la situation. Troisième liberté, vous avez la possibilité de copier en autant d'exemplaires que vous voulez et de diffuser comme vous le voulez le logiciel libre que vous vous êtes procuré. C'est pas sans intérêt dans un contexte éducatif du point de vue de l'égalité des élèves qui peuvent en toute légalité retrouver à leur domicile leur environnement informatique de l'établissement scolaire sans que ça occasionne des frais supplémentaires. Et puis, si vous voulez diffuser une version dérivée d'un logiciel libre que vous avez modifié, vous ne pouvez le faire que si vous faites bénéficier les autres des libertés dont vous avez vous-même bénéficié. C'est important, ça veut dire que le cycle de la vertu ne peut pas être interrompu, il ne peut pas y avoir une appropriation privative d'un logiciel, comme ça peut être le cas avec un logiciel du domaine...
Donc il y a une collaboration d'une communauté, finalement, chacun améliore le logiciel.
Il y a l'obligation de... On peut faire ce qu'on veut si on reste chez soi, hein, si on l'utilise dans sa chambre. En revanche, si on rediffuse les améliorations, on est tenu à respecter la licence du logiciel que l'on s'est procuré. Alors, encore un petit mot. Dans la définition que j'ai donnée, là, vous aurez reconnu le paradigme de la recherche scientifique. C'est normal, parce que... L'informatique, c'est une science. Et si souvent il y a une qualité reconnue des logiciels libres, c'est parce que le fonctionnement de la recherche scientifique a fait ses preuves depuis des siècles pour produire des biens de connaissances de qualité. Et un des piliers de la recherche scientifique, c'est la validation par les pairs. L'équivalent en matière de logiciels libres, c'est le débogage. Le fait que le code source soit accessible, ça fait que des dizaines, des centaines de programmeurs peuvent aller regarder. Et alors, je terminerai pour bien montrer le parallèle. Les mathématiques, par exemple, sont libres depuis 2500 ans, depuis le temps où Pythagore interdisait à ses disciples de divulguer et les théorèmes et les démonstrations. Et on imagine mal aujourd'hui un mathématicien disant... J'ai démontré le théorème de Fermat, vous me faites confiance, je ne vous donne pas la démonstration. Donc on voit là où est la force du logiciel libre.
Même si dans votre comparaison avec les chercheurs, on sait aussi que dans le monde de la recherche, quelquefois, le partage n'est pas aussi facile que ça. C'est peut-être un peu idéalisé comme vision des choses, non?
Alors,
Enfin, on reviendra peut-être sur cette
question là-dessus, parce que et je ferai référence à John Sulston, prix Nobel de médecine.
Bon, effectivement, mais les prix Nobel tout de suite, bon,
voilà,
ça
c'est très bien, mais l'artillerie lourde,
mais vrai qu'on comprend le modèle en tout cas, le modèle.
Fait, mais c'est vrai qu'il ne faut pas être angélique.
Bien sûr, même si on est sur Radio Notre-Dame. Jean-Noël de Galzin, vous avez fait votre carrière de chef d'entreprise qui marche, qui gagne, à partir de logiciel libre. C'est le logiciel libre qui a fait... pour vous, c'est un outil d'entreprise.
En effet, oui. Moi, j'ai travaillé dans différents domaines, dans la production audiovisuelle. J'ai travaillé ensuite dans l'informatique à l'époque du multimédia, dans les années 90, à l'époque où ça émergeait. Et ensuite, donc c'est en étant directeur informatique d'un gros projet Internet, d'un gros site Internet de recherche médicale, à destination du grand public et des professionnels, qu'il m'a fallu chercher, donc en 97, une technologie en mesure de gérer une grande masse de documents et d'avoir des technologies de recherche acceptables.
Donc vous faites partie de ceux que Jean-Pierre Archambault décrivait, qui utilisent cette troisième liberté d'améliorer, de triturer un peu un logiciel pour le rendre adapté à vos besoins.
En tous les cas, ce n'est pas exclusivement le moteur, mais c'est effectivement, je fais partie de cette catégorie de gens, à savoir que en fait on part d'un existant, on a de la matière existante et ensuite on a des idées, on a de l'inventivité, on est créatif et à un moment donné on a envie de l'exprimer. Et l'intérêt du logiciel libre, c'est de pouvoir non pas partir de zéro, mais de partir de tout ce magasin, on va dire, de connaissances, cette bibliothèque de logiciels et de librairies que l'on peut réutiliser parce que d'autres l'ont déjà utilisé dans des sites ou dans des technologies, des applications qui marchent. De partir de ce point-là et d'implémenter des nouveautés, d'implémenter des améliorations.
Ça veut dire en rajouter des choses.
En rajouter. Ouais. Et donc moi, tout simplement, en 97, j'ai rencontré une petite société de service qui s'appelait Mandala à l'époque, était dirigée par un garçon qui était un chercheur qui sortait des laboratoires de Motorola, expert en logiciels libres, expert en recherche, et on a travaillé ensemble, on a adapté à des logiciels classiques des algorithmes de recherche dans des technologies open source, et on a créé ce moteur. Et ce moteur répondait parfaitement à l'entreprise, aux besoins de l'entreprise dans laquelle je travaillais en tant que directeur informatique. Et voyant cela, et la puissance potentielle des logiciels libres, à l'époque où Internet explosait, et donc où il y avait un potentiel, un Far West potentiel de développement de nouvelles idées, et de nouvelles entreprises, eh bien j'ai décidé de transformer mon contrat de travail en contrat de prestation, et de prendre une part, de racheter partiellement cette entreprise, cette petite entreprise de service, et de m'associer à cette personne pour développer mon entreprise. À l'époque, qui s'appelait Aurora, qui était une entreprise de service spécialisée dans les logiciels libres.
Donc il fallait avoir un peu de nez quand même, parce que en 97, c'était pas encore complètement l'explosion, c'était la naissance.
C'est moins qu'on puisse dire. Voilà. Disons qu'il y avait deux explosions concomitantes, qui étaient à la fois celle de l'Internet, à savoir donc le développement de l'Internet dans le monde entier. Mais à l'époque, on parlait de mosaïque, on parlait de pages web en HTML, oui, toute simple. Oui. Enfin, c'était vraiment les débuts. Et en même temps, dans un mode de développement logiciel libre, où effectivement, on ouvrait le code logiciel. Voilà.
Une petite question quand même, qui est d'ordre philosophique, mais plutôt économique, on va dire. Il y a bien un premier moteur, il y a bien des ingénieurs qui vont plancher sur ce logiciel libre, qui vont mettre au point ce code dont vous avez parlé, Jean-Pierre Archambault. Qu'est-ce qu'ils y gagnent, ces gens-là? Comment c'est quoi le modèle économique du logiciel libre? Parce qu'on comprend bien qu'une entreprise qui va l'améliorer va le vendre.
Oui.
Mais ceux qui ont mis au point le code initial.
Alors le logiciel libre d'abord.
Jean-Noël de Calzon.
Bon, effectivement, le logiciel libre, il génère toute une économie. Il génère toute une économie. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est de l'informatique, et de l'informatique, c'est assez complexe. Finalement, c'est mis en œuvre par un certain nombre. C'est une industrie. Tous les gens qui mettent en œuvre des logiciels libres ont besoin d'aide, d'assistance, ont besoin de maintenir ça dans le temps, ils ont besoin d'amélioration ou de personnalisation, et tout ça, ça génère toute une économie de services qui est un modèle qui existe dans l'informatique. Donc, qui dit apparition de logiciels libres, dit apparition de nouveaux logiciels pour lesquels on a besoin d'intelligence et de mains pour l'adapter et le mettre en œuvre. Ça, c'est un premier type de modèle. Et puis ensuite, eh bien, à partir des logiciels libres, se sont construits tout un tas de nouvelles économies. Le mot est d'ailleurs reflète exactement ce qui s'est passé. La nouvelle économie qui continue aujourd'hui. La nouvelle économie s'est pas arrêtée à la bulle. Elle continue aujourd'hui avec des nouveaux modèles économiques dans les sites internet, dans des nouvelles applications qui utilisent des logiciels libres pour vendre des nouveaux équipements. Ça peut être des équipements comme des smartphones, comme des tablettes, PC. Comme des téléphones. Les téléphones mobiles tournent tous sur des logiciels libres.
Vous ne citez aucune marque, vous êtes très fort.
Voilà. et ensuite, ça génère également des nouveaux modèles économiques qu'on appelle par exemple les freemium. Ce sont des modèles par abonnement dans lesquels on va laisser l'utilisateur utiliser une application, mais on va lui dire, si tu veux l'utiliser avec des nouvelles armes, par exemple, pour un jeu de guerre, ou des nouveaux objets, ou des moyens d'améliorer
plus rapidement. Là, il faut payer un petit peu.
Tu payes en plus. Donc il y a deux utilisations. Il y a une utilisation totalement libre, et il y a une utilisation en parallèle où on paye un petit quelque chose.
Ce qui veut dire que le logiciel libre, finalement, touche le grand public maintenant, ce qui n'était pas le cas au début. C'était
absolument
un peu l'affaire de pro.
Absolument.
Didier Tranchier, petite intervention.
Alors voilà, juste de ce point de vue-là, moi je suis pas un grand historien, je suis plutôt du côté économique, mais l'analogie avec la communauté scientifique est à mon avis la meilleure. C'est-à-dire que la communauté scientifique, effectivement, à certains moments, peut être complètement privée ou complètement ouverte. Finalement, aujourd'hui, le modèle qui marche le mieux, c'est le modèle ouvert. C'est aujourd'hui ce qui crée des économies comme la communauté, l'économie américaine, comme la Silicon Valley. C'est-à-dire, c'est finalement dans la compétition, dans le partage et dans l'amélioration que se passent les choses.
C'est pas dans le secret, en tout cas. C'est pas dans le brevet.
Et l'informatique est justement issue de cette souche scientifiques, en particulier aux États-Unis, où ce sont les grandes universités américaines qui ont développé les principaux logiciels, jusqu'à temps qu'ils se les fassent voler par des sociétés, là je citerai pas de nom, mais des grandes sociétés d'éditeurs logiciels américains qui disent, tiens, je récupère les codes, je les vends, et je les vends très cher, et je crée une économie. le domaine finalement du logiciel libre, c'est une revanche de ces communautés qui disent mais non, non seulement ces produits-là, et on les connaît tous, ils marchent pas, ils coûtent très cher, ils correspondent pas toujours à ce qu'on veut, et d'ailleurs un certain éditeur dit maintenant, tiens tout d'un coup je vous ai écouté vous client, alors qu'il n'écoute rien du tout. Et le domaine finalement du logiciel libre, c'est la revanche, c'est-à-dire c'est la revanche de gens qui disent, moi je veux des produits sur lesquels je peux participer, je veux des produits qui correspondent à mes besoins, et je vais le constamment l'améliorer. C'est exactement le même système économique que n'importe quelle économie ouverte, n'importe quelle économie scientifique, et c'est cette manière-là que fonctionne en particulier la Silicon Valley.
Ça veut dire quand même que le logiciel libre, ce monde-là, on va parler de l'open source aussi, est un monde qui se préoccuperait un peu plus de la société que le monde ancien du logiciel propriétaire, où finalement on voulait faire de l'argent avec un produit.
Exactement.
On laisse la question pendante, on va revenir dessus en deuxième partie d'émission. Avant, on va écouter la programmation de Jean-Noël de Gazin, puisque vous savez que nos invités font la programmation musicale. Vous avez choisi vous avez choisi Christophe. Alors, pourquoi Christophe ?
Alors, pourquoi Christophe ? D'abord, parce que je connais un petit peu Christophe et que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il a une actualité, donc c'est l'occasion d'écouter un de ses derniers disques. C'est un chanteur très important en France. Pour moi, c'est quelqu'un qui est à la fois très libre, et en même temps, il a la voix du cœur, c'est un ange. Pour moi, c'est un ange.
Ah bah donc, voilà. Donc, ça va aussi faire plaisir à Didier Tranché, business angel en chef, ici présent. Alors, on écoute Dolce Vita de Christophe.
Radio Notre-Dame. Le piège était facile, tu es tombé dans mes bras, on se promenait en ville, c'était la Dolce Vita, et cette façon que tu avais de te serrer. Chercher la nuit à te remplacer, et pour quelques heures parfois, c'était la Dolce Vita, et cette façon que tu avais de te serrer contre le revers de mon smoking blanc cassé, je ne l'ai jamais retrouvé. Et le soleil décline sur ma mémoire en ruine, tous les soirs.
Retour dans Esprit d'entreprise en partenariat aujourd'hui avec IT Angels et son président Didier Tranchier. Didier, nous avons décidé d'aborder la question du logiciel libre et de l'open source avec nos invités Jean-Pierre Archambault et Jean-Noël de Galzin. On va continuer sur cette question de l'open source, peut-être pour le différencier un petit peu du logiciel libre. On a compris, hein, grâce à vous et à la clarté de vos propos, je vous remercie messieurs, ce que c'était que le logiciel libre. L'open source, c'est pas la même chose que le logiciel libre. Peut-être un petit mot Jean-Noël de Galzin.
En fait, l'open source est lié au logiciel libre dans la mesure où en anglais on parle de free software ou d'open source software. C'est deux choses différentes. Free software, c'est souvent le logiciel gratuit, mais c'est aussi le logiciel libre en anglais.
D'accord.
Sauf qu'un logiciel libre n'est pas forcément gratuit, comme l'a dit Jean-Pierre tout à l'heure.
Alors,
un logiciel libre, on l'a expliqué ce que c'était.
Oui.
L'open source, c'est plus
une philosophie finalement.
Un modèle de développement, effectivement.
Oui, c'est
un modèle de développement ou collaboratif dans lequel on travaille avec les autres. On publie éventuellement son code. Donc ça, c'est aussi dans la méthode de travail. En revanche, la propriété intellectuelle ne laisse pas la liberté.
Oui, c'est ça. Donc il n'y a pas cette troisième liberté que vous évoquez, qui est je peux le prendre, ce code, le bidouiller, l'améliorer, l'implémenter et en faire quelque chose.
Voilà. Tout à fait.
Par contre, je peux le consulter et du coup, moi-même m'enrichir de ce qu'il m'apporte, quoi.
Tout à fait. Et puis, je peux collaborer avec les autres, ce qui reste extrêmement important.
Ouais,
c'est vrai que dans la sphère économique, c'est essentiellement la sphère économique qui a apporté le terme d'open source, dans la mesure où dans la sphère économique, on a parfois des contraintes court terme qui sont de développer son entreprise, de générer des revenus, générer de la marge, de payer des salaires, etc. Et de ce fait-là, eh bien, on est tenté par des modèles mixtes où on fabrique pour partie du logiciel libre et on vend une partie de logiciels non libres avec ce logiciel libre. Et on aboutit à des systèmes mixtes, hybrides, dans lesquels on parle plus volontiers d'open source.
Alors justement, open source ou logiciel libre, il y a une chose qui est commune entre ces deux réalités, c'est quand même qu'elles créent des mutations importantes, hein, aussi bien dans le monde de l'entreprise que dans le monde de l'éducation, et on va voir que ces deux mondes se côtoient, ou peut-être devraient se côtoyer un peu plus. Avec vous, Jean-Noël de Galzin, peut-être votre regard, vous qui êtes plongé dans ce monde de l'entreprise numérique et Internet, est-ce que les choses changent en profondeur? Est-ce que la nature des relations entre les entreprises change? Est-ce que on assiste à de nouveaux process qui se mettent en place? Enfin, votre regard sur ce monde de l'entreprise confronté au logiciel libre?
Enfin, moi, je vois deux illustrations un peu différentes. Pour rebondir sur ce que disait Didier tout à l'heure, sur le modèle de la Silicon Valley, il y a quand même un fait intéressant, c'est que le logiciel libre a permis à des entreprises comme Facebook, Twitter, Google, tous les grands Apple, oui, avec l'iTunes, l'iPhone,
à toutes ces entreprises. On dit des marques maintenant. La première partie de l'émission, on ne le disait pas, mais là, on le dit.
On le dit, mais ce sont des services. Au début, ce sont des services à l'utilisateur. Ce sont devenus des marques parce que tout le monde les utilise.
C'est ça.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'ont permis les logiciels libres, c'est de faire exister ces technologies-là qui sont devenues des services massivement utilisés par tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde les utilise sans savoir que c'est les logiciels libres. Et comme pour tout utilisateur ou fabricant de services Internet, de services de produits qui utilisent les logiciels libres, on se dit qu'on est potentiellement capable de faire ça. Donc, c'est extrêmement important.
Donc, ça génère de la compétitivité, en fait.
Ça génère de la compétitivité, ça génère un moyen d'exprimer son inventivité sans avoir d'entrave, j'ai envie de dire, ni commerciale, ni technique, parce qu'on ne pourrait pas avoir accès au code, ou alors parce que pour avoir accès à ce code-là, on serait obligé de payer une quote-part à des entreprises qui sont des entreprises qui n'auraient pas forcément intérêt à ce qu'on développe de telles applications, parce que ça risque de leur faire de l'ombre.
Didier Tranchet, le business angel que vous êtes, l'investisseur providentiel qui précisément est plutôt versé dans ce monde de l'entreprise high-tech, vous constatez ça chez les jeunes ou moins jeunes que vous accompagnez, c'est cette niaque supplémentaire grâce à la liberté.
Et parce que bon, on a caractérisé donc effectivement le logiciel libre, c'est un monde qui est collaboratif, plus ouvert, qui est ouvert sur le reste, et dans lequel la vitesse d'innovation est très supérieure en fait au modèle purement propriétaire. Très supérieure en termes de vitesse, très supérieure aussi en termes de stabilité. D'ailleurs, de manière générale, aujourd'hui, si l'Internet fonctionne, si l'ordinateur fonctionne, c'est grâce aux logiciels libres, qui sont souvent à l'intérieur des ordinateurs. Et le modèle, justement, du logiciel libre, l'intérêt, c'est que, justement, il permet en fait, à plein d'entrepreneurs, tout d'un coup, d'avoir accès à des marchés et à donner accès en fait au logiciel à plein de personnes.
C'est l'essence des startups, quoi, finalement.
Alors c'est plus que les startups, c'est-à-dire qu'en fait,
les outils de base, le châssis même.
Il y a des pays donc globalement moins riches que le nôtre où il y a des PME qui n'ont pas toujours de l'argent, qui vont aller sur le logiciel libre parce qu'ils ont accès au logiciel libre alors qu'ils n'auraient pas accès en fait à des logiciels propriétaires. Donc on est déjà, grâce au logiciel libre, grâce à cette innovation dans le fait de pouvoir déployer ces technologies.
Alors sans angélisme, je vais vous passer la parole, Jean-Noël Le Gazin, mais est-ce que vous pensez que le logiciel libre est finalement un peu un modèle sociétal? Finalement, grâce au logiciel libre, on a peut-être un peu amélioré les choses dans le monde?
Alors en tous les cas...
Voilà, ces gens qui n'ont pas les moyens de se payer une licence, ils vont grâce au logiciel libre peut-être trouver des solutions pour améliorer le monde autour d'eux
Je vais vous dire quelque chose. Moi j'ai des clients, par exemple, en Russie. J'ai des clients en Russie. Soit ils utilisent des logiciels piratés, soit ils utilisent des logiciels libres. C'est ça leur idée. Ils n'ont pas forcément, parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, un logiciel de traitement de texte, c'est quelque chose de commun, ça vaut rien. Ça vaut quelque chose et en même temps, ça vaut rien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde le phénomène du logiciel libre, effectivement, il meut les principales grandes start-up de la Silicon Valley qui sont aujourd'hui devenues des géants mondiaux, au moins en termes d'utilisateurs, et donc des futurs industriels. Donc aujourd'hui, les plus gros utilisateurs de logiciels libres en puissance, et là où il y a le plus de croissance sur le marché des logiciels libres, c'est au Brésil, en Inde, en Russie, en Chine,
là où vraiment
dans
ils ont
tous les pays émergents, à très forte croissance, et ça va avec, gratuit. Ça devient même une arme économique pour ces pays-là, pour eux-mêmes refabriquer une industrie du logiciel, une industrie des technologies et donc de l'innovation. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est effectivement plein d'espoir pour tout un tas de pays qui seront demain des grands pays industrialisés, parce que les pays dont on parle, c'est des pays qui croient tellement fort qu'ils vont rattraper la France dans un certain nombre de domaines. Ils l'ont déjà fait pour des pays comme la Corée ou la Chine. Et donc, je pense que demain, c'est peut-être nous, le tiers monde, entre guillemets, technologique numérique. Et donc, on a très certainement intérêt à investir beaucoup plus largement dans les logiciels libres.
Et dans l'éducation, vous m'offrez une transition rêvée pour me tourner vers Jean-Pierre Archambault. Mais avant, quand même, une toute petite question encore à vous qui êtes dans l'entreprise, c'est finalement, est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une fracture due au logiciel libre dans les entreprises? Est-ce qu'on a des entreprises encore classiques qui vont être sur du logiciel propriétaire et des modèles finalement de développement classique? Et puis, une économie émergente, une entreprise émergente que vous venez de décrire, notamment dans les pays du même nom émergent, qui finalement se confronte et petit à petit efface l'entreprise classique. Didier,
alors, globalement, aujourd'hui, il n'y a plus aucune entreprise qui est sur du logiciel purement propriétaire. Aujourd'hui, tout le monde a de toute façon du logiciel libre dans toutes les machines qui existent. Simplement, les gens ne le savent pas nécessairement. Donc, on est dans un modèle où, de toute façon, même économiquement, le logiciel libre est là pour a déjà pris sa place et est là pour durer. Je dirais juste par analogie, le logiciel libre, c'est comme finalement l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. C'est-à-dire finalement, il y avait cette richesse qui existait dans les livres, dans la culture, et tout d'un coup, on est en train de le diffuser. Et le logiciel libre, c'est ni plus ni moins qu'un modèle de diffusion et de capitalisation, finalement, sur ces connaissances-là.
Presque envie de parler du gratuit qui vient supplanter aussi les journaux payants, et c'est encore un autre débat. Ouais. Mais on pourrait peut-être aussi faire une analogie là-dessus, sur l'information.
Disons que, concrètement, en gros, dans les entreprises, vous avez l'informatique traditionnelle et le poste de l'utilisateur sont essentiellement avec des logiciels propriétaires. Ouais. De l'autre côté, tous les nouveaux logiciels, les nouvelles applications, tout ce qui est lié à Internet et à la communication, ça, c'est basé sur du logiciel libre.
Et ça, c'est voilà. Une génération aussi. Hein. C'est une génération d'entrepreneurs.
Eh bien, tous les nouveaux logiciels, tout ce qui vient d'Internet et tout ce qui vient aussi du téléphone et de la mobilité, effectivement,
c'est
basé sur des logiciels libres. Donc, vous imaginez que, effectivement, les licences, les modèles de licences peuvent être gratuits dans le logiciel libre, mais vous imaginez à partir du moment où vous avez des milliards d'utilisateurs potentiels de logiciels libres, ça génère de l'économie partout.
Évidemment. Voilà. Jean-Pierre Archambault, je me tourne enfin vers vous. Jean-Noël de Galzin évoquait demain et après-demain, et puis la compétition mondiale que crée le logiciel libre. Est-ce que l'école est prête à donner à nos chers élèves, à nos étudiants, les armes qu'il faut pour affronter ce défi?
La réponse est oui. Hein. Il y a différents aspects du logiciel libre dans l'éducation. Là, j'en donnerai deux, puis reviendrai après. Une des missions de l'école, c'est de former le citoyen. Or, de mon point de vue, le logiciel libre, sa philosophie, c'est un excellent outil de réflexion pour penser les problématiques de l'immatériel, pour penser les problématiques du 21e siècle. Donc de ce point de vue-là, il est important qu'il soit dans l'école, et il l'est déjà. Alors, tout à l'heure, là, j'y faisais allusion. Pour illustrer cet outil de réflexion, moi, j'ai pas trouvé mieux que les propos, je le disais tout à l'heure, de John Sulston, prix Nobel de médecine, qui, dans les colonnes du Monde diplomatique en décembre 2002, évoquait les risques de privatisation du génome humain, et il disait: les données de base doivent être accessibles à tous pour que chacun puisse les interpréter, les modifier et les transmettre, et ajoutait-il, à l'instar du modèle de l'open source pour les logiciels.
Absolument.
En 2002.
En 2002, il disait ça. Donc absolument. Tout est dit. Un deuxième aspect important du libre dans l'éducation, c'est que dans l'éducation, le libre, bien entendu, c'est du logiciel. Par exemple, le déploiement actuellement dans tous les lycées d'Île-de-France d'un environnement numérique de travail libre. Mais le libre dans l'éducation, c'est aussi, et même certains disent surtout, les ressources pédagogiques. Parce que là, on est de plein pied sur le terrain de l'édition scolaire et des 10 millions d'élèves. Et très tôt, dès le début de la décennie, la question de la transférabilité de l'approche du libre, à la fois les modes de réalisation et les réponses en termes de droits d'auteur, très rapidement la question s'est posée de la transférabilité du libre à la production d'autres ressources immatérielles et, pour ce qui nous concerne, en premier lieu, les ressources pédagogiques.
C'est une question même économique, d'ailleurs. Entre autres.
Tout à fait. Et alors, un exemple qui est remarquable dans l'éducation, c'est l'exemple de l'association Césamat, hein, dont la notoriété dépasse
En deux mots,
Césamat, c'est 80 profs de maths qui soutiennent des projets pédagogiques libres, qui ont plus d'un million de visiteurs par mois sur leur site, qui éditent des manuels scolaires pour le collège, et en gros, ils ont 20% du marché. Ils ont eu un prix spécial de l'UNESCO pour la qualité de leur travail collaboratif et la qualité de leur réalisation. Ils ont été primés au trophée du libre, et ils ont un modèle économique. D'un côté, ils mettent librement et gratuitement sur le web toute leur réalisation pédagogique. Chaque prof de maths peut en faire ce qu'il veut, il va les prendre, il les modifie, il les utilise. Et parallèlement, ils coéditent, alors avec des éditeurs privés, Génération 5 pour pas le nommer, et des éditeurs publics, des CRDP, comme celui de Lille ou de Paris. Ils coéditent des produits dérivés, du papier, ça marche, et la rémunération se fait sur ces produits
dérivés.
Donc
ça veut dire que là, c'est une solution pour opérer ce transfert. Finalement, les éditeurs dont on peut imaginer qu'ils sont un peu réticents par rapport aux libres, pour garder leur livre, finalement là, on trouve une solution un peu intermédiaire en disant on va collaborer grâce à cette communauté, cette richesse qui est produite.
C'est une évolution très lente.
Oui, on imagine.
Il y a vraiment des freins culturels.
Oui.
Mais petit à petit...
Il n'y a pas de freins culturels dans l'éducation nationale, Jean-Pierre.
Non, là, je parle des éditeurs.
Ah oui, pardon.
Bien entendu. Je parle des éditeurs.
Oui, c'est ça, oui, bien sûr.
Il y a une difficulté, imaginer. Pour tout un tas de raisons qu'on n'a pas le temps d'aborder, à comprendre qu'il y a du côté du libre une économie qui peut marcher. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer...
Il y a un frein culturel.
Et puis il faut lâcher une prise pour en prendre une autre, voilà, dont on n'est pas sûr qu'elle soit très assurée encore. Voilà. Enfin, on peut
mais
comprendre.
Bon...
Alors, on va faire une petite pause musicale, parce que là, on est parti dans les hauteurs. Et vous, c'est vous qui l'avez programmé, Jean-Pierre Archambault. Alors, Jean Ferrat, Nuit et brouillard. Alors, c'est pas forcément ce qui est le plus facile à écouter, quoique c'est très beau, mais pourquoi Jean Ferrat?
Alors,
et pourquoi
Jean Ferrat, parce que l'émission est consacrée au libre. Alors, en général, on lit plus facilement un roman qu'un recueil de poèmes. Et je trouve que Jean Ferrat a permis un accès au grand public de la poésie. Alors, pourquoi Nuit et brouillard? Bon, il y a 30 ans, j'ai lu un ouvrage qui est peut-être celui qui m'a le plus ému, c'est de William Styron, Le choix de Sophie. Sophie, elle arrive dans un camp d'extermination, elle tient sa fille et son fils chacun dans une main, oui. Sur le quai de la gare, le SS lui dit, tu en abandonnes un. Et elle laisse son fils. C'est horrible. Et je crois qu'il faut se souvenir de ces choses-là.
Les choix. On écoute les brouillards, Jean Ferrat.
Ça va plaire à ma femme.
Radio Notre-Dame.
Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Qu'ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent.
Troisième partie de notre émission Esprit d'entreprise en partenariat avec IT Angels, Didier Tranché, président d'IT Angels, est accompagné de Jean-Pierre Archambault et Jean-Noël de Galzin pour évoquer le logiciel libre, l'open source et la révolution qu'ils impliquent. Jean-Pierre Archambault, nous venons d'écouter Jean Ferrat, c'est vous qui l'avez programmé, alors c'est vous qui allez continuer à nous parler de demain. On va un peu parler de cette mutation qui est en cours. Une question, un peu votre pronostic à vous sur la mutabilité, c'est un peu un grand mot, on va dire sur l'adaptabilité du monde de l'éducation en France à cette question de vous êtes optimiste, vous?
Oui. Hein, alors tout simplement parce que je jette un regard sur ces 10 dernières années.
Oui.
Le point de départ du libre dans l'éducation, c'est octobre 98, un accord cadre entre le ministère de l'Éducation nationale et la FUL, l'Association francophone des utilisateurs de Linux et des logiciels libres. Un accord cadre qui disait, en substance, il y a du côté des logiciels libres, des solutions alternatives de qualité pour les établissements scolaires à très moindre coût, et qui ajoutait, le logiciel libre, il doit s'inscrire dans une perspective, un objectif de pluralisme technologique, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Alors, depuis 98, le libre est devenu une composante à part entière de l'informatique pédagogique. Ça ne se discute plus.
C'est banalisé, quoi.
Voilà. Il s'est banalisé, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et là, on n'a pas le temps, mais ça, c'est loin d'avoir été un long fleuve tranquille.
C'était quoi, là, cette question de la pluralité technologique que vous évoquiez? C'était quoi?
Tout simplement, c'est que il n'y a aucune raison qu'il y ait un quasi-monopole de solutions informatiques dans l'éducation nationale.
D'accord.
L'éducation, c'est la diversité. Donc, avoir du libre, du pas libre.
C'est ce qui se passait parallèlement dans l'entreprise, d'ailleurs. Sans qu'il y ait besoin d'accord cadre, parce que l'entreprise est plus libre
Aujourd'hui, dans tous les domaines de l'informatique, tous les domaines de l'innovation où il y a de l'informatique, effectivement, il y a quand même une très large majorité de des logiciels. Plus de 45% du marché est détenu par des entreprises américaines. Le marché français, c'est 2% du marché mondial. On est assez...
Du libre.
Du logiciel en général.
Du logiciel en général, oui.
Donc, effectivement, on peut se dire que si on ne réagit pas, si quelque part on ne prône pas un modèle alternatif de logiciel, eh bien on aura du mal à rattraper ce retard. Et le logiciel libre a souvent été cité comme étant un moyen, donc ça a été cité en France, ça a été cité par la Commission européenne comme étant un moyen de préserver le pluralisme, c'est-à-dire... d'éviter qu'il y ait des grands monopoles, comme c'est le cas des grandes firmes du logiciel, de base de données, de traitement de texte, de système, etc., etc., en disant le minimum, en poussant à l'utilisation de différents types de logiciels, y compris les logiciels libres.
Alors on revient à l'école Jean-Pierre Archambault, donc 98, un accord cadre permet cette pluralité.
Légitime, voilà. La présence du libre dans l'éducation, dans le système éducatif, c'était important de légitimer.
Oui.
Et si ça a pu devenir assez rapidement une composante de l'informatique pédagogique, c'est parce que, en fait, la philosophie du libre, elle est complètement en phase et avec les missions du système éducatif et avec la culture enseignante. Diffuser la connaissance à tous, faire en sorte que tout le monde s'approprie la connaissance, pouvoir la modifier, partager. Ça, c'est des choses qui parlent à
alors, Jean-Pierre Archambault, oui, ça parle à l'enseignant. Est-ce que ça parle à un élève? Est-ce que aussi on a aujourd'hui un système éducatif qui va aller dans les classes pour expliquer ça, ou il y va déjà? Parce que c'est là aussi qu'est notre, finalement, le terreau de l'entreprise de demain. Ce sont les bancs de l'école d'aujourd'hui, évidemment.
Alors, là, vous posez un peu un autre problème important qui est celui de la culture informatique.
Oui,
les voilà. Jeunes générations, oui. Et de la façon de donner cette culture informatique.
Et particulièrement du libre, c'est quand même alors, de cette philosophie, quoi.
Une culture informatique et une culture du libre. Le problème, alors rapidement, depuis une quinzaine d'années, il y a une approche qui s'est imposée dans l'éducation nationale qui est... On donne une culture informatique en utilisant les outils informatiques.
Oui, la bureautique, etc.
Voilà, ça s'est notamment concrétisé dans le brevet informatique et Internet. Or, l'expérience a prouvé que ça ne fonctionnait pas. Une autre approche, hein, qui a ses partisans depuis longtemps, en fait, depuis 30 ans, hein, il y a deux approches là, qui coexistent. La première que je viens de vous citer, puis la deuxième qui dit, il y a tout un tas de statuts éducatifs, c'est un outil pédagogique, ça transforme les disciplines de l'intérieur, par exemple les enseignements techniques et professionnels, mais en même temps, pour donner une culture informatique, on doit avoir une discipline informatique en tant que telle.
Scientifique finalement.
Scientifique et technique.
C'est ça. Ouais.
Alors, bonne nouvelle, en 2012, redémarrera un enseignement de spécialité optionnelle informatique et sciences du numérique en terminale S. Donc, si on veut qu'un élève comprenne, soit sensible au libre, je reviens à la définition de tout à l'heure, c'est quoi
faut comprendre le code,
code source, c'est quoi le code source, c'est quoi le code objet. Donc, pour s'approprier ces choses-là, bah, il faut avoir fait de l'informatique, il faut avoir écrit des programmes, il faut avoir une culture.
Et pas seulement savoir manier un traitement de texte.
Voilà.
Mais c'est fondamental ce que vous dites, parce que...
Il faut être optimiste. Enfin, moi, je dis, il faut quand même être optimiste, hein, parce que nous,
vous êtes optimiste,
des ingénieurs. Ah oui, on est très optimiste, je suis très optimiste, parce que on recrute quand même beaucoup de... On recrute des ingénieurs, j'ai autour de moi des entreprises, tout un écosystème dans lequel il y a beaucoup d'ingénieurs, et que dans les écoles d'ingénieurs, dans les universités, il y a quand même des logiciels libres. L'accès à Internet permet d'accéder à des logiciels libres qui permettent de fabriquer des sites internet, des sites de commerce, de fabriquer des nouveaux programmes informatiques, et qu'aujourd'hui, ça, c'est toutes ces ressources sont accessibles via Internet, avec des manuels qui sont très bien faits. Les logiciels libres, c'est aussi les logiciels traduits dans plus de 150 langues, enfin dans toutes les langues, puisqu'en fait, c'est aussi un des avantages du logiciel libre, c'est qu'il est mondialisé dès le départ. Il est déjà très lui-même compétitif puisqu'il est mondialisé. Il est mis en œuvre par des ingénieurs dans tous les pays du monde qui collaborent ensemble, donc qui sont capables de parler ensemble, donc d'échanger des langues. Donc aujourd'hui le logiciel libre va très vite.
Mais est-ce que vous ne craignez pas quand on voit nos jeunes aujourd'hui qui fantasment un peu sur le monde informatique, qui dès qu'ils ont 13-14 ans se disent qu'ils vont en faire leur métier, etc. Est-ce que vous craignez pas quand même qu'il y ait une fracture à l'intérieur même de ce monde-là entre ceux qui vont manier les codes, qui vont être un peu les scientifiques justement, ceux qui vont être formés à partir de 2012, et puis tous les autres, ceux qui vont être capables d'utiliser un logiciel libre parce que c'est facile et qui vont peut-être croire à tort que qu'ils peuvent en faire un métier, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une petite fracture qui risque de dessiner là?
Ce que je vois en tous les cas aujourd'hui dans l'enjeu de l'informatique en ce moment, les grands enjeux dont on parle beaucoup, c'est la digitalisation des contenus de manière massive, que ce soit des contenus publics, l'identité des personnes et tout ce que vous faites, enfin c'est tout ce qui est autour des contenus. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle le cloud computing, ou l'informatique dans les nuages, où effectivement, on va en fait utiliser des ressources partagées qui sont à l'extérieur de son propre ordinateur, donc dématérialisées dans l'Internet. C'est aujourd'hui que ces deux préoccupations sont les priorités dans l'informatique, eh bien, elles posent immanquablement la question de savoir où sont les données, comment sont fabriqués les programmes, où est gérée l'identité de chaque personne qui accède à Internet ou qui a un certain nombre de données personnelles le concernant qui vont transiter sur des réseaux publics. Et toutes ces questions-là posent donc des questions de transparence, de contrôle de l'informatique et de l'information.
Et de technique quand même.
Et donc de technique. C'est une question technique et dans laquelle, en tous les cas, les logiciels libres ne sont pas la voie unique, mais ils sont très bien positionné.
En tout cas, assez royal.
Et nous, par exemple, donc je suis dans un pôle de compétitivité qui est en fait une Silicon Valley installée à Paris-Saclay.
Systématique
Paris-Région. C'est un cluster dans lequel il y a 650 partenaires industriels, académiques et donc petites et grandes entreprises qui collaborent, qui créent des programmes de recherche, 1,2 milliard d'euros de recherche depuis 4 ans, et dans lesquels on a créer un groupe thématique, un groupe logiciel libre qui, justement, réfléchit aux nouveaux logiciels, propose des nouveaux logiciels dans différents domaines de l'Internet ou de
l'informatique. Donc là, il y a des créateurs de code, quoi.
Exactement, il y a tout un écosystème.
On va les chercher un peu depuis le début de l'émission, ils sont dans des endroits comme ça.
Hein, ils sont dans des organisations comme celle-là. Voilà. Le logiciel libre, c'est un environnement qui est extrêmement vivant, dans lequel il y a énormément d'associations, d'entreprises, d'auto-entrepreneurs.
Et qui est assez passionnant en plus, quand on vous écoute.
Je dirais que non seulement il est passionnant, mais il est mu par des passionnés.
C'est ça.
Et je crois que c'est très important.
Jean-Pierre Archaud.
Alors, je voudrais revenir sur la fracture numérique. Là, vous dites quelque chose de très important. Dans les années 80, il y avait une option d'informatique dans les lycées d'enseignement général qui a été supprimé début des années 90. Donc là, il y a recréation d'une option pour les scientifiques, mais je suis complètement d'accord avec vous que l'informatique, c'est un élément de la culture générale et de la culture générale scolaire au XXIe siècle, et de mon point de vue, et je ne suis pas le seul à le partager, bien entendu, l'informatique doit être aussi enseignée à l'ensemble des élèves, parce que en fait, par rapport aux ingénieurs, j'ai été associé aux travaux du SNRI en 2009, Stratégie Nationale Recherche et Innovation, et le groupe informatique et mathématiques a fait le constat d'un niveau non optimal en informatique des ingénieurs et des chercheurs non informaticiens. Donc il y a réellement un problème de culture générale informatique pour l'ensemble de la population.
Je voudrais que vous abordiez aussi, Jean-Pierre Archambault, un point qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est très important, qui est finalement cette question du logiciel libre et de son intérêt pour d'autres matière que la matière informatique, le monde de la culture, le monde de l'art, etc. En deux mots aussi, finalement, qu'on ouvre un peu en cette fin d'émission, qu'on ouvre un petit peu l'horizon sur, sur ces perspectives-là.
Tout à fait. Prenons les licences. D'une certaine manière, le copyright n'est pas adapté à Internet. Quand un auteur met une œuvre sur Internet, le copyright stipule qu'il doit donner l'autorisation à chaque internaute qui lui demande de comment l'utiliser.
Mais c'est pas réaliste.
C'est ingérable.
C'est une textobine, quoi, adaptée.
C'est même contraire à l'esprit.
Le gars, il va passer sa journée à donner des autorisations. Alors, exemple de réponse adaptée en termes de licence, ressemblant à la GPL, il y a les licences Creative Commons, où l'auteur indique à l'avance ce qu'il permet aux internautes de faire avec l'œuvre qu'il a mise sur Internet. Et ça permet une circulation fluide des œuvres, ça permet des échanges, un travail collaboratif. L'auteur dit, bon, vous voulez diffuser mon œuvre, d'accord, simplement il faut dire que c'est moi. Vous voulez l'utiliser, pas de problème. Mais éventuellement, j'autorise une utilisation commerciale ou je n'utilise pas, ou j'autorise pas une utilisation commerciale. Vous pouvez diffuser, mais vous n'avez pas le droit de modifier. Ça peut se comprendre, par exemple, quand on a un article, parce que si on le modifie, au bout de 10 modifications, on ne le reconnaît pas. Ou éventuellement, comme pour la GPL, l'auteur dit, bon, pour un scénario de cours, par exemple, vous pouvez modifier, mais à la condition de permettre aux autres de bénéficier.
Et donc, et ça, c'est respecté. Ça marche. C'est-à-dire que c'est quand même la question de la mentalité.
Bien sûr que ça marche. C'est justement parce qu'il y a des règles de licence il y a des systèmes de licence assez simples, des licences très simples, avec des libertés simples, et finalement qui sont des libertés fondamentales, parce qu'on parle de liberté, d'égalité, on parle de collaboration, donc de fraternité quelque part. En fait, on parle de choses qui sont très républicaines, très simples, très démocratiques, et finalement, c'est une autre manière de mettre en avant, de mieux gérer des biens humains, des biens collectifs éventuellement pour la recherche publique ou pour des choses qui seraient financées par des fonds publics, c'est un bon moyen de restituer ce que l'on fabrique avec des moyens privés ou avec des moyens publics pour le plus grand nombre. Et donc de faire avancer globalement la société.
Et la citoyenneté même, d'ailleurs. Enfin, vous parlez de citoyenneté, Jean-Pierre Archambault, au début de l'émission. Didier Tranchy, il reste quelques secondes que je vous offre.
Alors voilà, juste sur le plan économique en tant qu'investisseur, moi j'ai vu plusieurs phases. Donc l'apparition du modèle du logiciel libre. Logiciel libre, en tant qu'investisseur, on se disait finalement ils vont gagner moins d'argent parce qu'ils vont éventuellement offrir gratuitement ce logiciel. Et donc comment ont-ils fait gagner de l'argent? On s'est aperçu en fait que ce modèle était extrêmement puissant parce que justement il se diffusait de manière très très large, qu'il y avait des gens qui payaient mais d'autres qui étaient gratuits, et en fait ce modèle aujourd'hui c'est un peu la conclusion, il est en train, cette philosophie qui a été portée par les entrepreneurs est en train de se diffuser en fait à tout un tas d'autres industries qui restent des industries essentiellement propriétaires, et donc on voit un basculement de l'économie du modèle propriétaire vers un modèle
et c'est la diffusion vert. Massive qui fait le succès du modèle économique.
Tout à fait.
Didier Tranchier, Jean-Noël de Galzin, Jean-Pierre Archambault, un grand merci d'être venu traiter ce sujet qui reste ouvert et bien entendu qui reste libre. Vous pouvez d'ailleurs réagir à cette émission et nous écrire, vous auditeurs, à l'adresse suivante espritdentreprise@radionotredame.com, espritdentreprise@radionotredame.com.
Vous pouvez aussi réécouter cette émission demain ou samedi à 10h et bien sûr en permanence sur le site de la radio. La semaine prochaine, je recevrai Christian Sauter, aujourd'hui président de France Active et notamment ancien ministre de l'économie et des finances, pour une émission dédiée à la création d'emplois. D'ici là, excellente semaine à tous.
Au revoir.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, come on down, don't you wanna go down? Come on, mothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way.
Chaque jeudi à 18h30, retrouvez Face aux Chrétiens, animé par Dominique Chivot.
Face aux Chrétiens.
Hommes politiques, grands patrons ou acteurs de l'Église répondent le jeudi à 18h30 aux questions de La Croix, RCF et Radio Notre-Dame. Face aux Chrétiens, un magazine animé par Dominique Chivot.
Cette semaine, l'invité de Face aux Chrétiens sera Marie-Lise Lebranchu, députée PS et ancien ministre.
Links Portage.
J'ai débuté ma carrière dans une grande agence conseil.
Carole Darcourt, 35 ans, consultante en communication.
Une expérience très enrichissante, mais aussi très prenante. J'ai aujourd'hui 2 enfants et je veux gérer différemment mon temps. Alors je suis devenue consultante Links Conseil. Je choisis mes clients, mes missions. J'ai gagné une liberté formidable.
Links Portage, première communauté d'experts entrepreneurs. En savoir plus, links-portage.com. Links-portage.com.
Theotokos.fr. Vous recherchez l'âme sœur ou vous souhaitez vous faire de nouveaux amis? Rejoignez theotokos.fr, le site avec 3 espaces de rencontre. Un espace tête-à-tête pour rencontrer l'âme sœur, un espace sortie pour partager des loisirs entre célibataires et un espace d'entraide et d'échange de services bénévoles. Theotokos.fr, le site chrétien de rencontre pour vivre l'amour et l'amitié durable. Pourquoi pas vous ?
theotokos.fr, theotokos.fr.
Maman, le prêtre à la messe, il a parlé du meunier de l'église. Il est où ce meunier?
Tu as mal entendu. Il a parlé du denier de l'église, avec un dé comme donné. L'église a besoin qu'on lui donne de l'argent pour vivre.
Ah, et si je lui en donne, moi, j'aurai quoi en échange?
C'est comme un cadeau. Ce que donne l'église, c'est l'espérance, c'est de la joie, c'est de l'amour. Et elle te donne la main pour toute ta vie.
Donner, c'est aussi recevoir, alors?
Tu as tout compris.
Parce que donner, c'est aussi recevoir.